compagnons, camarades, citoyennes, citoyens, françaises, français et tous les autres, bienvenue dans cette émission pour explorer la genèse, les racines d'une idée politique, parce que nous sommes un peu perdus et désaffiliés dans ce monde politique qui se recompose, parce que la défiance et l'abstention dominent. Dans Enquête de politique, nous explorons un isme, une idée, son histoire, son poids dans nos consciences, sa marque sur les débats qui nous agitent.
Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter.
Aujourd'hui, l'écologie politique, quelles origines, quelles doctrines?
Ce qui s'impose à nous, c'est une régression globale de la consommation matérielle.
L'écologie dans les années 90, en l'an 2000, qu'est-ce que ce sera? Est-ce que ce sera un retour à la nature naturelle? Ou est-ce que ce sera au contraire un autre développement d'autres techniques qui permettront de dépolluer?
Une approche écologique n'est ni l'un ni l'autre. Ce n'est ni le retour à la nature, ni le fait de surajouter un supplément de technologie de production industrielle à celle qui existe déjà pour en neutraliser les effets nuisibles.
Par essence, l'écologie politique a des origines très très diversifiées et quelquefois même contradictoires.
L'écologie est une science, la science du vivant et du milieu naturel, mais l'écologie politique est une offre idéologique relativement récente et encore bien mal définie parce que, pour l'instant, depuis les années 70, l'écologie politique est plus un constat, une inquiétude, une critique des effets pervers de la mise en œuvre des autres grandes idéologies globales, socialisme et capitalisme, toutes basées sur la production, la croissance et la façon de se répartir les richesses. Or, ce que conteste l'écologie politique, c'est la nature de cette croissance et parfois même la croissance elle-même. Le lien entre plus et mieux est rompu, disait le journaliste et philosophe André Gorz dès les années 70. Mais si l'écologie, au sens politique du terme, existe depuis bien plus longtemps, l'écologie politique organisée, théorisée, est vraiment née il y a 50 ans quand les conclusions du Club de Rome ont été rendues publiques. Le Club de Rome, voilà bien une initiative fondatrice des hauts fonctionnaires, des économistes, mais aussi des industriels, des universitaires de 50 pays d'origine idéologique diverse se réunissent à l'initiative, entre autres, d'Aurelio Peccei, un haut responsable de Fiat, industriel italien et humaniste. Entre 1968 et 1972, toutes ces personnalités travaillent et se penchent sur le modèle de croissance qui tourne à plein dans ce monde reconstruit d'après-guerre. Les revenus explosent dans l'Europe de l'Ouest, en paix et qui jouit de l'État-providence excédentaire. Les États-Unis innovent et vont bientôt inventer le numérique qui va révolutionner le monde. Le Japon devient une puissance industrielle dynamique. L'Amérique du Sud fait encore figure de futur Eldorado du capitalisme. La Chine dort encore, mais plus pour longtemps. Le monde tourne grâce à l'énergie carbonée, bientôt aussi au nucléaire. Tout va bien, au moins au nord, sur le plan économique. Le premier choc pétrolier n'a pas encore eu lieu. Mais l'année 68 a montré qu'une partie de la jeunesse d'après-guerre ne se satisfait pas d'une promesse de confort toujours plus accessible. Cette jeunesse, confusément, décorrèle le plus et le mieux. Le Club de Rome rend son rapport en 1972 et c'est une bombe. Les deux principaux rédacteurs de ce travail collectif, Dennis et Donella Meadows, écologues américains, et tous les membres du club affirment que la croissance économique mondiale, combinée à l'accroissement inéluctable de la population, nous conduit à notre perte. Il ne s'agit pas encore du climat. Mais ce rapport choc et documenté remet en cause la toute-puissance de l'homme et affirme pour la première fois que les ressources de la planète sont limitées.
Les études qu'on a faites démontrent que nous sommes tout près des limites auxquelles on peut arriver si les conditions de vie sont maintenues comme maintenant. Vous savez que dans beaucoup de parties du monde, elles sont très pauvres.
1972, Aurelio Peccei, industriel italien, inspirateur du Club de Rome.
Le vrai problème est qu'il faut trouver un compromis entre la croissance de la population et notre utilisation des ressources terrestres. Il y a des ressources qui sont épuisables et qui ne peuvent pas être renouvelées. C'est cet équilibre qu'il faut trouver, sinon nos fils, les prochaines générations, devront payer notre imprévoyance et notre égoïsme.
Le monde est malheureux. Il est malheureux parce qu'il ne sait pas où il va et parce qu'il devine que s'il le savait, ce serait pour découvrir qu'il va à la catastrophe.
Étonnante déclaration de Valéry Giscard d'Estaing, tout jeune président en 1974, une déclaration qui prend en compte les conclusions du Club de Rome, signe de l'écho de ce rapport. Alerte vite oubliée, hein, ça fait quand même 50 ans que ça dure, 50 ans que l'on souligne l'urgence. Alors, qui sont les théoriciens de l'écologie politique? Nous n'allons pas, dans cette émission, aujourd'hui, revenir sur l'épopée chaotique et électorale des écolos en France depuis la première candidature à la présidentielle de 1974. Vous vous souvenez, René Dumont, son col roulé, son verre d'eau, jusqu'aux réussites européennes et locales et aux échecs nationaux des différents partis verts qui se sont succédés. Nous n'allons pas passer en revue les vedettes de l'écologie politique, Lalonde, Vechter, Voynet, Duflot, Hulot, Jadot, Bayou et la prometteuse Marine Tondelier.
On a lancé l'alerte en criant pendant 40 ans. On s'était beaucoup moqué pour ça, mais si on avait fait ce qu'on disait il y a 40 ans, on ne serait peut-être pas là. Donc moi, je refuse les procès aussi en amateurisme. Après, moi, je porte une écologie de la joie, une écologie conviviable, le plaisir de militer, parce qu'en fait, les sujets qu'on porte, vous avez raison, sont durs. Il faut qu'on arrive à s'en parler, pas à dédramatiser, parce que c'est dramatique. Les enfants qui naissent en 2022, on ne sait pas aujourd'hui leur garantir l'habitabilité de la planète pour quand ils auront 30 ans. Mais il ne faut pas être tétanisé face à ça. Il faut être en action, et ce sera mon travail.
Nous allons parler, une fois n'est pas coutume, idéologie écologique. Un homme, André Gortz, a beaucoup influencé le débat en faveur de l'écologie, cette branche agaçante, perturbante de la gauche, dominante culturellement des années 70. Et pour nous parler d'André Gortz, intellectuel marxiste critique, un peu oublié malgré l'essor de la pensée écologiste, eh bien, j'ai donné rendez-vous à la terrasse d'un café parisien, terrasse non chauffée bien sûr, à Christophe Fourel et Dick Howard. Alors Christophe Fourel est économiste, militant et élu local écologique. Il était l'ami d'André Gortz et l'auteur de plusieurs ouvrages sur le philosophe, dont le dernier « Écologie et révolution ». André Gortz et Herbert Marcuse, dialogue critique, écrit avec Clara Ruot aux éditions Les Petits Matins. Et Dick Howard, philosophe américain, complice d'André Gortz. André Gortz est mort en 2007. Alors je signale le dernier livre de Dick Howard, « Les ombres de l'Amérique, de Kennedy à Trump » aux éditions François Bourin. Christophe Fourel, d'abord, nous présente André Gortz.
André Gortz, c'était un philosophe qui s'était formé à la philosophie de façon complètement autodidacte, parce que de formation, il était un ingénieur chimiste. Il avait fait des études d'ingénieur en Suisse lors de son exil, puisqu'il est né à Vienne, en Autriche, en 1923. Il était demi-juif et donc après l'Anschluss, après l'invasion de l'Autriche par l'Allemagne nazie, sa mère avait choisi de le mettre en pension à Lausanne pour le protéger et il y a fait des études de chimie. C'est pendant cette période où il se posait énormément de questions sur le sens de sa vie et donc il a commencé à se former à la philosophie et en découvrant notamment l'œuvre de Jean-Paul Sartre dont il a été un disciple émancipé, pourrait-on dire. Et voilà, il s'est formé à la philosophie existentialisme. Et ensuite, il est venu s'installer en France en 1949. Il voulait absolument devenir français parce que, fondamentalement, il considérait que c'était en France, à Paris en particulier, où la vie intellectuelle était très stimulante. Il est devenu journaliste pour gagner sa vie, en fait. D'abord dans un petit journal qui s'appelait Paris Presse, au début des années 50, puis il avait été repéré par Jean-Jacques Servan-Schreiber et donc il est devenu journaliste à l'Express, où Jean-Jacques Servan-Schreiber lui avait d'ailleurs conseillé d'adopter un pseudonyme parce que son patronyme d'état civil était Horst et donc ça faisait trop allemand dans la France d'après-guerre. Avec Jean-Jacques Servan-Schreiber, ils avaient choisi le pseudonyme de Michel Bosquet et donc il est devenu Michel Bosquet à l'Express, puis il est passé au Nouvel Observateur en cofondant le Nouvel Observateur avec Jean Daniel, avec Serge Laforie, avec K.S. Carroll. Et il a fait ensuite toute sa carrière de journaliste au Nouvel Obs sous le pseudonyme de Michel Bosquet.
Comment André Gortz est devenu l'un des théoriciens de l'écologie politique, Christophe Fourel?
Je crois qu'il est devenu un des théoriciens justement, finalement, par son métier de journaliste. On peut dire que quand il a commencé à s'intéresser à l'écologie, et au mouvement écologiste, hein, parce que c'est surtout ça qui l'intéressait, C'est quand même son nom de plume de Michel Bosquet qu'il a commencé à écrire tout un tas d'articles. On voyait bien qu'en France, notamment, le mouvement écologiste était un mouvement qui est né de la contestation sur des sujets comme le nucléaire, par exemple, ou le Larzac. On voyait bien que c'était la défense du milieu de vie, en fait, qui était le support de cette contestation et de ce combat. D'ailleurs, André Gortz avait une conception de l'écologie qui n'était pas d'abord scientifique. Il disait « la défense du milieu de vie en tant que constituant de la qualité de la vie et de la qualité de la civilisation ». Donc on voit bien qu'il avait d'entrée de jeu une conception très politique en fait de l'écologie.
Très sociale, c'était pas un environnementaliste.
Alors ce n'était pas un environnementaliste pur, effectivement. Il a eu d'entrée de jeu le souci d'allier à la fois la question sociale et la question écologique. Et donc finalement de développer une théorie, si on peut dire, de l'écologie politique, une des théories de l'écologie politique, parce que par essence, j'ai envie de dire, l'écologie politique a des origines très très diversifiées et quelquefois même contradictoires. Mais André Gortz avait développé une option particulière de l'écologie politique comme critique sociale.
Et alors si on en reparle un petit peu en ce moment, c'est qu'il avait aussi vu au début des années 70 les méfaits de la croissance. C'était une époque d'ailleurs où certains s'interrogeaient déjà, il y a le rapport Meadows, sur cette question.
Alors effectivement, le début des années 70 est un repère temporel absolument fondamental pour l'écologie politique. Mais effectivement, Gortz a joué un rôle très important. Alors comme théoricien, puisque au milieu des années 70, il écrit « Écologie et politique », qui est quand même un ouvrage de référence aujourd'hui pour les écologistes, avec les options particulières que j'ai développées tout à l'heure d'écologie comme critique sociale. Et il se trouve qu'il a créé un événement en 1972, c'est-à-dire l'année de la parution du rapport Meadows que vous évoquiez, mais également d'un autre rapport important qui avait été édité par des scientifiques britanniques. Et donc, il faisait qu'il y avait quand même, cette année-là, énormément de publications remettant en question la tendance de nos sociétés à bâtir leur progrès sur la croissance économique.
Vous ne pouvez pas continuer à exploiter au même rythme, même à croissance zéro, des ressources qui sont limitées, sans arriver à l'effondrement.
André Gortz, sur France Culture, en 1990.
Dans ce qu'il y a d'écologistes scientifiques, personne ne vous dit plus que l'on peut indéfiniment étendre les possibilités d'exploitation de ressources qui sont limitées. Ce qui s'impose à nous, c'est une régression globale de la consommation matérielle. Une approche écologique, ce n'est ni le retour à la nature, ni le fait de surajouter un supplément de technologie de production industrielle à celle qui existe déjà pour en neutraliser les effets nuisibles. Nous savons très bien qu'aujourd'hui, l'accroissement de la consommation n'est plus synonyme d'accroissement du bien-être. Le lien entre plus et mieux est rompu.
C'est le premier moment où on parle de la finitude du monde.
Alors voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on commence à poser un certain nombre de repères relativement importants pour l'écologie politique. C'est la question d'une économie écologiquement soutenable. C'est la question du progrès et de son orientation. C'est la question de la justice sociale. Et puis, c'est la question d'une vie individuellement épanouissante. Ce sont en fait les trois piliers de l'écologie politique.
Donc Christophe Fourel, comment Gortz a construit sa réflexion écologiste ?
Bon, il faut bien avoir à l'esprit que Gortz était marxiste, avec une certaine orthodoxie dans sa pensée marxiste, une pensée très ouvriériste dans les années 60. Mais cette pensée va être complètement remise en question dès l'instant où il va porter sa réflexion sur la question des besoins. Parce qu'il considère que la société industrielle et le capitalisme, pour perdurer, pour se perpétuer, a besoin constamment de renouveler les besoins. Et donc, fabrique des besoins. Elle fabrique un consommateur pour pouvoir faire fonctionner le système. Et ça, c'est une question que Gortz va quand même beaucoup approfondir, va évidemment contester, et il va trouver des alliés pour le faire. Et il y a un allié particulier qui s'appelle Herbert Marcuse. Herbert Marcuse, donc, était un des fondateurs de l'école de Francfort, qui ensuite avait migré, du fait de ses origines juives, il avait migré aux États-Unis et a écrit au début des années 60, en 64 exactement, un livre majeur que Gortz était un des rares Français à avoir lu, qui s'appelait « L'homme unidimensionnel ». Dans ce livre, notamment, mais pas que, il pose la question de les vrais besoins et les faux besoins, ceux qui sont fabriqués véritablement par le système.
C'est le début de la contestation de la société de consommation.
Voilà.
La beauté d'une voiture ou d'un meuble, nous sentons tout de suite qu'elle contient beaucoup plus de choses que la simple beauté.
Georges Perec, 1965.
Le monde dans lequel nous vivons, le monde que nous rencontrons chaque fois que nous sortons dans la rue, chaque fois que nous entrons dans les magasins, est un monde riche, fascinant et beau. Dans la société que l'on appelle société de consommation, l'essentiel est de consommer et tout nous pousse à consommer. Mais les déceptions et les frustrations qui accompagnent cette quête du bonheur que nous avons confondu trop vite avec le confort, avec la richesse, la publicité, les étalages, les vitrines, d'une certaine manière nous rendent fous, nous saoulent. Toutes ces choses ne sont là que pour entretenir une espèce de frénésie, de vertige, d'hypnose.
Marcuse et Gortz vont se retrouver sur le fait que le capitalisme a une grande capacité à intégrer, y compris la classe ouvrière, qui était à l'époque, après-guerre et dans les années 60, censée, selon l'orthodoxie marxiste, être le vecteur et le porteur du sujet révolutionnaire, le prolétariat. Et donc Gortz et Marcuse vont effectivement remettre en question cela, en montrant que le capitalisme intègre justement de plus en plus la classe ouvrière, mais il l'intègre d'une certaine façon, c'est-à-dire en atténuant ses capacités de contestation et en fabriquant des besoins, des faux besoins, justement pour faire perdurer le système capitaliste. Au tout début des années 70, Gortz va faire la rencontre d'un autre penseur qui, lui, ne vient pas du marxisme, qui est Ivan Illich. Et donc, il va introduire, en fait, la pensée d'Ivan Illich en France. Ça va être une autre source pour élaborer sa pensée d'écologiste.
C'est quoi, Christophe Forel, la pensée d'Ivan Illich ?
Pour résumer, c'est une contestation, en fait, de l'industrialisme. Du fait que l'industrialisme construit des institutions qui sont toujours plus importantes et qui se retournent contre les objectifs pour lesquels elles avaient été créées. La médecine rend malade. C'est de la technocritique. La médecine rend malade, la voiture rend immobile. Voilà, c'est ce que Ivan Illich appelait la contre-productivité, en fait. C'est-à-dire que passé un certain seuil, finalement, les choses qui ont été construites se retournent contre les objectifs initiaux qui était censé libérer ou délivrer les individus.
C'est-à-dire que la production de l'instrument devient plus importante dans la société que le but qui était assigné à l'instrument lui-même.
Voilà, vous avez parfaitement résumé. Et donc, du coup, Illich, qui encore une fois ne vient pas du marxisme, est une source d'inspiration pour la réflexion d'André Gortz pour structurer un peu sa pensée d'écologiste.
Déterminer les besoins réels plutôt qu'assouvir des désirs construits par la logique industrielle, faire l'éloge du suffisant, pour reprendre le titre d'un des livres d'André Gortz, voilà qui sonne comme frappé au coin du bon sens écologique. Mais on voit déjà la difficulté et le danger potentiellement liberticide de la mise en œuvre d'une telle exigence. Qui déterminera ce dont on a besoin et surtout ce qu'il ne faut plus désirer ?
Je parle de la nécessité de la simplification de la vie si nous voulons avoir une terre qui est bonne.
Ivan Illich, autrichien, né en 1926 et mort en 2002, ancien prêtre catholique devenu philosophe, figure de la technocritique.
Parce que ceux qui parlent contre la simplification pour le progrès continuel, progressus populorum, dans le latin médiéval ça veut dire les peuples qui deviennent fous, disent qu'on ne sait jamais ce qui est bon et bien. Parce que le bon est toujours le plus. On définit comme but d'une démocratie de définir en commun le minimum que tout le monde doit avoir. Je propose une inversion de ce concept, de faire but principal d'une politique saine la recherche du maximum sur lequel tout le monde peut se mettre d'accord que c'est suffisant pour chacun.
France Inter, Thomas Legrand.
En quête de politique aujourd'hui, en quête d'écologie, Christophe Humbert réalise cette émission, Franck Olivard nous trouve nos archives et Thierry Dupin est là pour la programmation musicale et à la technique aujourd'hui, Mathieu Bérény. On va retrouver Christophe Fourel et Dico Ward un peu plus tard dans l'émission. Partons maintenant à Villejuif. Alain Lipietz, élu municipal de cette ville de la banlieue sud de la capitale, est l'un des leaders historiques des Verts. Il a été candidat éphémère à la présidentielle, ancien parlementaire, ingénieur, économiste. Il a participé à toutes les luttes écolo des années 60 à aujourd'hui. Son dernier livre, Face à la toute urgence écologique, la révolution verte aux éditions Les Petits Matins. Alain Lipietz nous reçoit chez lui à Villejuif.
L'écologie, disons, politisée, c'est-à-dire se posant la question quels sont ces fameux rapports entre les hommes qui vont déterminer le fait qu'on va bousiller la nature, ça remonte au 19e siècle. Hein. Alors c'est essentiellement les géographes comme Vidal de la Blache, hein, et surtout Élisée Reclus, et puis d'autre part des grands écrivains, notamment Georges Sand qui fait une bagarre extraordinaire sous Napoléon III pour faire classer la forêt de Fontainebleau. Et ensuite, quand on se propose de raser la forêt de Fontainebleau pour payer l'indemnité de guerre après la défaite de 1871, elle fait un article extraordinaire dans Le Temps, qui est un peu le monde de l'époque, plusieurs pages, où tout y est, y compris les effets de raser une forêt sur le climat, par exemple. Et enfin, tous les rapports sociaux, la paysannerie autour, enfin, incroyable, c'est vraiment une analyse qu'on appellerait aujourd'hui l'écologie politique.
Après ça, donc, comment naît l'écologie vraiment politique, organisationnelle? Bon, Élisée Reclus, bien sûr.
On peut dire que certains anarchistes, certains socialistes sont écologistes, mais l'écologie est totalement écrasée par le productivisme des forces de gauche de l'époque. Quand même, c'est un peu modéré par l'importance de la paysannerie, c'est-à-dire que, évidemment, des gens comme Jaurès, par exemple, défend le petit paysan.
Il défend les petits paysans parce que ce sont des petits, plus voilà. Que parce que ce sont des paysans, non?
Il les défend parce que ce sont des petits, pas parce que ce sont des paysans, parce que les paysans n'ont pas bonne presse, justement. On considère que c'est eux qui ont fourni l'armée aux Versaillais pour écraser la Commune de Paris, donc les paysans sont pas très bien vus. La gauche se développe dans les villes de façon très industrialiste. Il y a en plus une tradition chez les intellectuels, puisque, bon, comme dit Julliard, la gauche est l'alliance des classes populaires et de la bourgeoisie progressiste. C'est les Lumières, c'est Descartes, c'est pas Jean-Jacques Rousseau, justement. C'est les gens qui considèrent que le progrès, c'est ça qui entraîne les forces productives et la richesse, y compris pour les pauvres. Hein. Là, c'est la formule de Victor Hugo, d'abord produire, ensuite répartir dans Les Misérables. On n'est pas du tout dans une optique de défense de la nature, ni chez les intellectuels, ni dans le mouvement ouvrier.
La nature, à l'époque, c'est contemplatif, c'est pour la littérature, c'est...
C'est ça, voilà. On ne se rend absolument pas compte du rôle de l'agriculture et des paysages français dans l'équilibre général de la société française.
Après, il y a le marxisme. Alors, le marxisme, c'est une analyse scientifique, finalement, du capitalisme. Et donc, de la production, de la répartition de la production.
D'une certaine façon, Marx est tout à fait en ligne avec la position de Victor Hugo. Hein. D'abord produire, ensuite répartir. Il considère que les forces productives du capitalisme, en fait, sont positives. Plus vous développez la machinerie, mieux ça vaut. Et il croit en plus que l'ouvrier industriel est forcément la conscience de ce qu'il faut transformer, hein, puisqu'il travaille collectivement. Donc, il y a une idéologie de la grande industrie qui est tout à fait en ligne avec l'idéologie des Lumières, hein, qui est celle fondamentale de la Révolution française. Et c'est très embêtant parce que ça va donner un grand retard à la France par rapport à d'autres pays en matière de développement de l'écologie politique. Aussi bien les intellectuels que le mouvement ouvrier sont très productivistes. Ils trouvent que c'est très bien développé l'industrie lourde. Tous ceux qui disent « Oh ben non, quand même, l'artisanat, la petite paysannerie », passent pour des passéistes. Alors en plus, Pétain arrive, justement sur l'idéologie, la terre ne ment pas, etc. Donc pour la gauche, s'occuper du paysage, défendre un rapport direct entre le paysan et la terre, ça apparaît comme pétainiste, de droite, réactionnaire, etc. Alors c'est un peu de leur faute, ils avaient qu'à s'en occuper avant eux-mêmes. Hein. Qu'est-ce qui sert de contrepoids dans une tradition qui est un peu justement celle de Georges Sand, quand même la protection du paysage. On trouve que c'est bien que l'État protège les paysages. Donc vous avez, dès la Libération, des lois de protection du paysage qui s'enracinent dans, disons, le modèle Georges Sand. On définit certains territoires ou certains bâtiments qu'il faut absolument préserver, mais le reste, on s'en fiche.
Il y a les parcs nationaux et puis la loi littorale dans les années 70, c'est une chose. Mais qu'est-ce qui, à gauche, Alain Lipietz, fait un petit déclic dans une partie de la gauche et chez des marxistes, peut-être chez vous quand vous étiez jeune? Qu'est-ce qui fait ce petit déclic que finalement la croissance, c'est pas une bonne chose?
Bah, André Gors, Henri Lefebvre aussi, hein, tous ces marxistes un peu, enfin, qui s'occupent de ce qu'on appelle le cadre de vie. Allez, on va appeler ça comme ça.
On parle souvent de ségrégation et les différentes couches et classes de la société ont leurs espaces particuliers.
Henri Lefebvre, 1901-1991, philosophe, penseur de la géographie et de l'urbanisme, ici, en 1974, propos incroyablement prémonitoires.
C'est-à-dire, on met les ouvriers dans les uns, les cadres dans d'autres, les grands cadres ailleurs, et bon, tout est séparé. C'est tous les éléments de la vie sociale qui ont été séparés les uns des autres sous prétexte de fonctionnalisation. La commercialisation suppose que chaque espace soit isolé, qu'il puisse être vendu comme on vend un kilo de sucre, utilisé comme on utilise une machine bien spécialisée. La spécialisation de l'espace correspond à la spécialisation de plus en plus poussée, à la division du travail parcellaire. Or, l'espace spécialisé est un espace mort.
Et puis il y a mai 68. Alors mai 68, c'est en quelque sorte la cristallisation de la critique du productivisme des gaullistes, mais qui est largement partagé par les communistes. Ma toute première manifestation écologiste, qu'on peut dire vraiment écologiste, c'est 69, je crois, pour la libération des bords de l'Erdre, qui est une rivière qui se jette dans la Loire à Nantes. Vous voyez, c'est pas très radical.
On imagine un jeune homme à Polytechnique en 65, 66, 67. Polytechnique, c'est l'antre de la technique française, l'élite du productivisme. Comment vous vivez cette période? Est-ce que vous êtes déjà écologiste, Alain Lipietz?
Bah, en 1966, non. Hein, on peut dire que quand je rentre dans cette grande école d'ingénieurs, et d'ingénieurs d'État surtout, hein, je ne suis pas écologiste au sens où je ne critique absolument pas la technique. Les marxistes commencent à bouger. Et puis vous avez la révolution culturelle chinoise aussi, hein, qui est une critique du modèle très industrialiste de l'Union soviétique. Donc on lit le texte chinois. C'est la mobilisation sur le Vietnam. Le Vietnam, c'est une résistance paysanne contre des avions. Déjà, la mythologie hein, des Indiens, des Indiens qui se battent contre la cavalerie est déjà là.
Entre 1971 et 1981, d'incessantes manifestations, des occupations au plateau du Larzac ont eu lieu pour empêcher l'implantation d'une vaste zone d'entraînement militaire.
Nous annonçons à l'ensemble des participants à la marche que 15 membres des comités de soldats en uniforme ont pris place sur les tracteurs des paysans.
Alors le Larzac, c'est vraiment un mouvement où s'est cristallisé, si vous voulez, l'écologie politique comme idéologie, voilà, comme aspiration, comme idéal, comme voilà.
En 1980, le projet du Larzac est abandonné parce que la gauche arrive. Est-ce que ça veut dire que la gauche socialiste et communiste devient écologiste?
Non, c'est un compromis. C'est clairement un compromis, et ça, ça va durer jusque sous Jospin, compris. C'est-à-dire que les socialistes comprennent qu'il faut s'allier avec l'écologie, mais à titre de concession. On ne remet pas en cause le nucléaire. Le PS dit non, il faut faire du nucléaire. Mais on ne va pas faire Plogoff parce que c'est joli. Donc c'est un peu patrimonial, toujours, cette composante patrimoniale qui a toujours existé, y compris à l'intérieur de l'idéologie des Lumières de la gauche française. Hein. Oui, on peut faire de l'écologie, mais vraiment, il faut que ça soit magnifique, il faut que ça soit exceptionnel. Dans ce cas-là, oui.
Est-ce que Notre-Dame-des-Landes est un tournant? Parce que Notre-Dame-des-Landes, c'est pas tellement le site magnifique, la zone humide qui a été sauvée. C'est aussi une logique qui a été contrecarrée.
Effectivement, alors qu'il fallait, dans les années 70, un argument esthétique pour faire de l'écologie locale au sens politique. Ce n'est plus la peine à partir de Notre-Dame-des-Landes. On voit la progression. Là, non, il faut changer de modèle de développement, il faut arrêter d'aller en avion. Tout ce discours de critique de l'avion, c'est une différence énorme avec le Larzac, si vous voulez.
Dis papa, t'as collé toi les poissons?
Bien sûr, j'ai collé les poissons, enfin.
Et c'est comment?
Eh bien, tu vois la mer?
La mer, le grand truc tout noir devant nous qui fait l'air moumou?
Exactement, tu dis. Eh bien, cette mer, autrefois, était bleue. Et dedans, il y avait tout un tas de bestioles, à peu près grandes comme ça, couvertes de cailles, qu'on appelait les poissons.
Ah ah! Dis, papa, t'as collé, toi, les arbres?
Ah bien, collé les arbres.
Et t'es comment?
Eh bien, tu vois ce pilote?
Hein?
Eh bien, c'est à peu près grand comme ça, tout marron, avec tout un tas de trucs verts, un peu comme du papier. Ah non, t'as pas connu le papier. Enfin, on appelait ça des feuilles.
Ouais, bref. Dis, papa, t'as connu, toi, les animaux?
Ah, c'est là qu'a bien connu les animaux, c'est ton père, mon petit. Les dindons, les outardes, les gnous, les girafes, les tempires, les ornithorynques, les phacobochères.
Et les insectes?
Les insectes qui passent, les araignées, les bédules.
C'est passé où, tout ça, papa?
Mon petit, c'est passé où? C'est passé que ça s'est mal passé, mon petit. Qu'on les a bouffés. Enfin, on les a mangés.
Vous avez tout mangé?
Bah oui.
Vous n'avez pas essayé pour les autres?
Bah, on n'a pas pensé, mon petit. C'est-à-dire que la télé nous disait qu'il n'y en aura plus en 2048. Donc, si tu veux, comme il n'y en a plus en avoir, bah, tout le monde en voulait. Comme tout le monde en voulait, tout le monde en a eu. Et puis, comme tout le monde en a eu et que tout le monde en avait.
Il n'y en a plus.
Exactement.
Dis, papa, t'as connu, toi, quand il faisait pas 60 degrés?
Ah, bien connu. Les vents, on était là comme ça. On se baladait. On avait froid.
Froid?
Oui, non, laissons. Oui.
Et les oiseaux?
Ah, les oiseaux. Tu vois le ciel?
Le ciel, le grand truc tout gris au-dessus de nous, ils sont pas bons qu'on voit rien?
Exactement, mon petit. Eh bien, ce ciel, autrefois, était d'un bleu, tandis que le vaste rapace planait au-dessus de nous.
Non, attends. Là, t'es en train de me dire qu'avant, il y a des poissons qui nageaient dans une mer qui était bleue, alors qu'elle est noire, qu'il y a des arbres avec des trucs verts, des tempires, des phacobochères qui faisaient froid. Tu serais pas en train de te foutre de moi, non? Et l'eau, t'as connu l'eau?
Calme-toi, mon petit, calme-toi. J'ai connu les fleuves, les rivières, plein d'eau d'un coup.
Et vous avez tout?
Bah oui. C'est-à-dire, on pensait pas, mon petit. Enfin, on se disait, on sera plus là. Et puis, bah, depuis qu'on meurt plus, nous, on voit bien le nez pour nous emmerder, tiens. Mais c'est pas de ta faute, tout ça, mon petit, hein. Faut pas être triste, hein.
Pas triste, je suis fâché, bouffeur d'oiseaux, assassin de poissons, tueur de merde, découpeur d'arbres, couper d'insectes.
Que tu vas parler sur un autre temps, si je débranche ton lit, t'es central, hein.
Et les hommes, t'as connu les hommes?
Formidable, drôle et tragique à la fois. Zoufris Maracas, dit papa, et ça date de 2012.
France Inter, en quête de politique, Thomas Legrand.
Et c'est l'heure du livre d'Aurélie Marcirot. Bonjour Aurélie.
Bonjour Thomas.
Aurélie, vous nous parlez cette semaine d'un livre sorti chez Textuel l'an dernier, une histoire des luttes pour l'environnement.
Oui, un beau livre dans tous les sens du terme. Ces 300 pages ont été coordonnées par quatre universitaires, professeurs d'histoire, Anne-Claude Ambroise-Rendu, Steve Agimon, Charles-François Matisse et Alexis Vrignon. 100 récits donc sur 3 siècles de combats et de débats. 3 siècles car la pensée écologique a une histoire. Vous avez cité George Sand, mais elle est loin d'être la seule et la première. Connaissez-vous par exemple Alexander von Humboldt?
Bien sûr, je connais tout le monde. Non, j'avoue, je connais pas.
Eh bien, ce naturaliste allemand, bien avant Greta Thunberg, accusait au 18e, l'Occident de détruire la nature, une sommité intellectuelle reconnue dans toute l'Europe, grand voyageur, avec notamment un périple en Amérique latine qui le fait réfléchir aux interactions entre flore, climat et activité humaine.
Il y a Rousseau également.
Bien sûr, une figure tutélaire. Sa recherche d'une relation plus harmonieuse entre l'homme et la nature est très moderne. Dans une période où le progrès occupe une place centrale dans les imaginaires, de la fin du 18e à la fin du 19e, la contestation de l'industrialisation, de l'urbanisation, la protection des paysages sont légion, écrivent les auteurs. Selon vous, encore Thomas, de quand date la première enquête sur le changement climatique en France?
Je dirais au début des années 90.
Mais non, j'ai tort. Avant le GIEC.
Je m'en doutais.
1821. Après une première vague de froid exceptionnelle, le sentiment que le temps se dérègle pousse le ministère de l'Intérieur a lancé une enquête sur, je cite, les variations subites des saisons. Il s'interroge sur un possible lien entre déforestation et règlement climatique.
Et le résultat?
Bien, rien de probant. Je pourrais aussi vous parler de la création de la première société royale pour lutter contre la maltraitance animale en 1824 en Angleterre. Vous parlez de Thoreau aux États-Unis 30 ans plus tard et sa critique de la modernité dans La vie des bois. Ou encore vous raconter que le plus grand massacre de civils du 19e en temps de paix en Europe a eu lieu à Rio Tinto en Espagne en 1888, où une manifestation contre des vapeurs sulfurées dues à l'exploitation minière a été réprimée dans le sang. Mais je préfère vous renvoyer à ce fabuleux livre.
Et vous avez aimé ce livre?
Beaucoup.
Rappelez-nous les références de ce livre.
Eh bien, une histoire des luttes pour l'environnement, c'est chez Textuel.
Merci Aurélie, à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
Nous sommes toujours en quête d'écologie cette semaine, les racines de l'écologie politique. N'oubliez pas que vous pouvez réécouter cette émission et tous les numéros d'enquête de politique en passant par le site de France Inter ou en la podcastant. Nous retournons maintenant avec Christophe Fourel, économiste et militant écologiste, et Dick Howard, philosophe, qui ont tous deux entretenu une amitié intellectuelle avec André Gorz, le philosophe et journaliste considéré comme l'un des pères de l'écologie politique moderne. Dick Howard et André Gorz ont eu une complicité intellectuelle et éditoriale depuis les années 60. Dick Howard, est-ce que vous classeriez André Gorz dans la catégorie des théoriciens politiques ?
Il est théoricien politique dès que je l'ai rencontré il y a plus de 50 ans, que j'étais militant de la Nouvelle Gauche aux États-Unis. Pour moi, ce qui était fondamental dans cette idée d'une Nouvelle Gauche, c'était mes deux visites à la République tchèque, à Prague, chez les dissidents en 1967 et 1968.
Pourquoi ?
Pour deux raisons. D'une part, ça m'a convaincu qu'il y a quelque chose de partagé dans ce mouvement des 60s, comme on dit, où on mettait en question le productivisme, on mettait en question tout ce que nous offrait le capitalisme et ses rapports sociaux, ces rapports de production.
Parce que jusque-là, ce qui mettait en cause le capitalisme, le libéralisme économique, c'était uniquement le marxisme. Et là, vous avez assisté à la naissance d'autre chose, c'est ça ?
Il me semble que c'est autre chose, mais Christophe Fourel faisait allusion à l'importance d'un livre, Histoire et conscience de classe, qui était paru en 1923 déjà, et qui a eu une histoire intéressante parce que ce livre, publié donc 23 par un communiste germano-hongrois, a été condamné par l'Église, si l'on veut, moscovite. Et donc, qu'est-ce que ça...
Les marxistes pur jus.
Exactement. Et qu'est-ce que voulait dire son titre, en fait, Histoire et conscience de classe? Le côté histoire, c'était la vision marxiste des lendemains qui chantent.
Je voudrais que vous nous expliquiez comment, théoriquement, on passe d'une pensée marxiste. André Gorz, Dick Howard, était marxiste. Christophe Fourel nous l'a expliqué tout à l'heure. Et puis, quelque chose se passe. Il lit Nietzsche, d'accord, mais quelque chose se passe. Il quitte les rivages classiques du marxisme pour aller vers l'écologie. Comment ça se passe théoriquement? Et à quel moment?
Je pense que, comme il avait été journaliste et resté journaliste, il regardait alentour, il voyait que des choses bougeaient. Déjà, quand il était la tête pensante politique de la revue des temps modernes, déjà à cette époque, il faisait écrire des jeunes, par exemple Marc Ravetz, une gauche du mouvement étudiante venait là. Il s'ouvrait aux États-Unis, il avait accepté des papier, il s'ouvrait à tout ce qui se passait au monde, y compris, et ça pour moi c'est fondamental, y compris l'antitotalitarisme qui au début n'était pas tout à fait recevable.
Parce que il faut dire qu'à ce moment-là, il n'y avait pas que les écologistes qui voulaient s'émanciper du marxisme traditionnel. Il y avait la social-démocratie en France, ce qu'on appelait la deuxième gauche ou la gauche démocratique, le PS classique qui naissait en 71. Christophe Fourel.
Certes, mais le poids très très important du Parti communiste d'une part et de la pensée marxiste en France a fait que la gauche, même social-démocrate, ne s'est pas complètement départie du marxisme. S'agissant de l'évolution de la pensée de Gorz, Gorz, de toute façon, jusqu'à la fin de sa vie, restera marxiste. Mais il a pris un certain nombre de distances, et cette prise de distance va s'officialiser fortement en 1980, quand il fait paraître son ouvrage qui s'appelle « Adieu au prolétariat », dont évidemment le titre est tout un programme. Il affiche très clairement que la question du sujet révolutionnaire ne se trouve pas dans la classe ouvrière, et la classe ouvrière n'est pas l'endroit, et ses organisations, y compris syndicales, ne sont pas les endroits où peut être pensé le dépassement du capitalisme. Parce que toute sa vie, Gorz aura cherché les voies pour sortir du capitalisme, dépasser le capitalisme. Le combat de la vie de Gorz, c'est de montrer que l'on peut vivre mieux en consommant moins, en travaillant moins, en vivant différemment et en produisant moins. Parce que Gortz, il faut le souligner, est un penseur très accessible, en fait. Il est très lisible et on peut rentrer dans n'importe quel de ses ouvrages sans avoir forcément un background important pour pouvoir comprendre ce qu'il va raconter.
Alors Christophe Fourel, vous conseilleriez lequel pour quelqu'un qui voudrait découvrir André Gortz en première lecture ?
Ben, en première lecture, moi je conseillerais de lire l'ouvrage qui s'appelle Ecologica, qui est un recueil d'articles qu'il avait préparé juste avant son suicide. Cet ouvrage est sorti en 2008, c'est-à-dire un an après sa mort, et je pense que c'est un des ouvrages qui permet d'embrasser relativement bien son itinéraire d'intellectuel et la question qui nous intéresse aujourd'hui, qui est effectivement la naissance de l'écologie politique.
André Gortz s'est suicidé. Pourquoi ?
Il s'est suicidé d'une façon très très peu ordinaire, puisque c'est un choix qu'il avait fait avec sa femme, Dorine, qui était atteinte d'une maladie incurable. Il s'était fait le serment de partir ensemble. C'est un suicide à deux. C'est un acte d'une ultime liberté. Et on sait que toute l'œuvre d'André Gortz est quand même consacrée à la liberté, à la lutte contre l'aliénation et le sens du vécu pour les individus. C'est vraiment les trois domaines que Gortz a fondamentalement explorés qui, d'une certaine manière, font que ce suicide à deux est un acte avec une portée philosophique. Il l'est d'autant plus qu'aujourd'hui, la France réfléchit à la question de la fin de vie, du suicide assisté, et qu'on voit bien que ça suscite des débats très difficiles à trancher.
J'ai taffé toute la semaine, Dieu merci, on est samedi. Et whisky coca dans un gobelet en plastique qui finira peut-être dans l'océan Pacifique ou en particules toxiques dans l'organisme. Attends, mais qu'est-ce que je raconte ? Meilleure soirée, meilleure vie que des mannequins, c'est sûrement la fashion week. Que des mannequins au bord de l'anorexie, influence les petites pour vendre des cosmétiques. Je pensais jamais rentrer dans des soirées selectes. Open bar, je me sers un toast avec une grosse crevette. Pêché par un chalutier à l'est de Madagascar qui détruit la barrière de coraux sur son passage, qui fait que les pêcheurs ont plus de travail. Ils ramènent rien aux villageois qui ont plus rien à graille, vu que leurs crevettes sont devant moi. Pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Monte le son pendant que je fais péter le champ. C'est ma chanson préférée, ça parle de tuer des gens. D'un type qui trafique la mort pour s'acheter des jantes. Pour un SUV qui consomme énormément. Pendant que la pollution fait 4 millions de morts par an. Mais pourquoi je pense à ça, c'est pas le moment. Nouveau survêtu sur mon 31, c'est pas le 31. Juste un samedi soir, t'inquiète pas, c'est rien. Mentalité zéro lendemain. Tout ira bien tant que mon verre est plein. Dites aux voisins qu'on va jamais baisser le son. Marcheur en l'air vers le ciel. Baisse le monde, baisse le monde. Baisse le monde, baisse le monde, baisse le monde. Nanananana.
Baisse le monde par Aurel San, ça vient de sortir. Moi, en préparant cette émission sur l'écologie, je cherche les théoriciens de l'écologie. Alors, il y a des hommes politiques écologistes qui ont des programmes, mais de théorie politique, je n'en vois pas. Christophe Fourel.
C'est vrai que c'est une difficulté pour l'écologie et l'écologie politique, parce qu'il n'y a pas de doctrine toute ficelée.
Parce qu'il s'agit souvent, pour une grande part, de comportements individuels ou pas ?
Non, c'est, je pense
de morale ?
Non, mais je pense que c'est les sources, en fait, sont extrêmement disparates. D'abord, quand on parle d'écologie, on devrait dire, rappeler que c'est Ernst Haeckel qui, à la fin du 19e, qui était un biologiste, qui a inventé le mot. Le terme d'écologie politique a été pour la première fois prononcé et écrit par Bertrand de Jouvenel en 1957.
Parce qu'au départ, l'écologie, c'est une science, c'est pas une théorie politique.
Voilà, c'est ça. Et donc, on voit bien que les sources, il y a des sources libertaires de l'écologie. Aujourd'hui, on voit bien que Élisée Reclus, et son ouvrage du début, du XXe siècle, regagne en notoriété. On réévoque Rachel Carson et son printemps silencieux du début des années 60 qui remettait en question l'utilisation d'un certain nombre d'intrants dans la production agricole. David Thoreau également est redevenu, à la mode.
Désobéissance civile.
La désobéissance civile. Donc on voit bien que les sources de l'écologie politique sont extrêmement disparates et donc il n'y a pas véritablement de corps de doctrine complètement abouti. C'est un aggiornamento permanent, l'écologie politique. Et on voit bien aussi que les traditions dans les pays sont différentes. Aux États-Unis, les gens sont très environnementalistes. En Allemagne, on voit bien que des penseurs comme Hans Jonas qui a fait paraître son livre majeur qui s'appelle « Le principe responsabilité » en 1979, ou un peu plus tard Ulrich Beck qui lui avait écrit « La société du risque », sont des penseurs qui ont énormément charpenté la réflexion de l'écologie politique, mais avec des options très particulières, qui sont l'heuristique de la peur, finalement, c'est ça. En France, cette tradition de l'heuristique de la peur n'est pas un courant majoritaire. On était plutôt sur une contestation, comment dire, une critique sociale du système capitaliste. J'évoquais tout à l'heure la parution du livre assez majeur d'André Gorz, parce que ça constitue un tournant dans sa pensée, qui est « Adieu au prolétariat ». On sait très bien que « Adieu au prolétariat » a contribué à faire que pas mal de militants de l'extrême gauche, convaincus par l'idée que le sujet révolutionnaire n'était plus le prolétariat qui portait le sens de l'histoire, eh bien, se sont petit à petit portés vers l'écologie politique, qui était un endroit, sans doute, de contestation du système beaucoup plus satisfaisant pour les nouvelles conditions, puisque toutes les années 70 avaient fait émerger ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire la contestation de la croissance, une certaine contestation du progrès, tout en essayant de ne pas trahir les lumières.
Dick Howard, il y a donc un moment où tous ceux qui avaient une formation marxiste, en 68 et un peu après, se posent la question d'une bifurcation vers l'écologie. Est-ce que c'est si clairement pensé, déjà ?
Non, certainement pas. Parlant de Gorz et écoutant mon ami Christophe, ce qui m'est revenu à l'esprit, c'est que dans une correspondance avec lui qui a duré 30-40 ans, des longues lettres arrivaient, des copies de ses nouveaux livres arrivaient, je lisais, je réfléchissais. Alors, chaque fois, je lui disais, tu as montré bien l'instabilité, l'impossibilité, etc., etc. Que faire ? Que faire ?
Que faire, que faire, comme dirait Lénine, demande Dick Howard à son ami André Gorz à l'issue de chacune de leurs conversations épistolaires. Cette interrogation angoissée et démultipliée depuis l'évidence du dérèglement climatique, c'est bien le drame de l'écologie politique. Des penseurs plus modernes tentent des réponses, des militants, des responsables politiques de l'écologie, des élus s'y essaient. Mais le constat est là, aucune grande démocratie n'a mis à sa tête une force écologiste en situation dominante. Et pour l'instant, même si les écologistes ont été les premiers à alerter sur l'état de la planète et sur les conséquences de nos modes de production et de consommation, aucune réponse satisfaisante n'a été fournie. Les écologistes savent gérer des villes, des régions, trouver des solutions pratiques et écologiquement vertueuses. Ils se montrent plutôt utiles dans les instances supranationales, les instances européennes par exemple, où il faut imposer des limites, des normes pour réduire l'impact de nos activités. Mais là où se créent des mouvements idéologiques vraiment populaires, c'est-à-dire au niveau des États-nations, les écologistes sont encore des nains politiques. André Gorz a été visionnaire, comme les membres du Club de Rome, visionnaire dans le constat, honnête dans l'énoncé des solutions, mais alors que
le lien entre plus et mieux est rompu.
Déterminer le mieux est autrement plus compliqué que proposer le plus. La question reste en suspens, alors nous reviendrons bien sûr dans d'autres épisodes d'Enquête de politique avec ceux qui tentent de penser les solutions aujourd'hui. La semaine prochaine, tout autre chose, quoique, délire progressiste ou panique conservatrice, le wokisme pour le 24 décembre et pour bien préparer le débat animé de votre repas de famille, j'avais pensé que c'était tout indiqué. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, eh bien c'est la politique qui s'intéressera à vous.